Radio Prague, les informations.
Jour de fête nationale ce vendredi en République tchèque. Il y a tout juste 87 ans, les Tchèques et les Slovaques ont fondé leur État indépendant. Des cérémonies officielles, mais aussi des manifestations des extrémistes se sont déroulées un peu partout dans le pays. À l'occasion de la fête nationale, les monuments historiques et les institutions politiques à Prague ont ouvert leurs portes au public. La République tchèque pourrait envoyer en 2006 120 soldats en Afghanistan, se sont mis d'accord les ministres tchèques et américains de la Défense. Jour de fête nationale ce vendredi en République tchèque, le 28 octobre 1918 a été fondée la Tchécoslovaquie indépendante, l'état commun des Tchèques et des Slovaques. Les célébrations officielles ont commencé à Lahane, près de Prague. Le chef de l'état Václav Klaus y a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du premier ministre tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk. Les dirigeants tchèques ainsi que plusieurs dizaines de personnes venues de toute la République tchèque ont assisté à un acte de piété organisé près du monument aux morts pour la patrie de Vítkov à Prague. Des cérémonies à l'occasion de la fête du 28 octobre se sont également déroulées près du monument aux légionnaires tchécoslovaques à Prague 2 et au musée national Place Venceslas. À Mladá Boleslav, en Bohême centrale, des statues des présidents tchécoslovaques Masaryk et Beneš ont été inaugurées. Dans la soirée, le président Klaus doit décorer au château de Prague une vingtaine de personnalités tchèques. La fête nationale a été célébrée pour la première fois par l'armée tchèque entièrement professionnelle depuis le 1er janvier de cette année. Les étudiants de l'Université de la Défense ont prêté serment au château de Prague. Le président Václav Klaus a ensuite nommé un nouveau général de l'armée tchèque. 4 généraux ont été promus au grade supérieur. Près de 70 représentants du mouvement néo-nazi ont protesté devant l'ambassade allemande à Prague contre la détention de l'Allemand Ernst Zündel, 66 ans, inculpé de négation de l'Holocauste. Quelques 150 personnes ont manifesté au même endroit contre leur action. La police n'est pas intervenue, mais 2 personnes ont été interpellées. Les nationalistes se sont rassemblés place Palatsky au centre de Prague. Ils ont manifesté leur soutien au parti extrémiste, le Rassemblement national et le parti ouvrier. Enfin, une centaine de jeunes sympathisants de l'extrême droite sont descendus dans les rues d'Ostrava, en Moravie du Nord, avec leur slogan nationaliste. 2 agresseurs ont été interpellés. Des journées portes ouvertes ont été organisées à l'occasion de la fête nationale du 28 octobre dans plusieurs institutions et monuments historiques de Prague. Les touristes ont pu visiter par exemple la résidence principale des premiers ministres tchèques, le parlement ou le siège du gouvernement. La maison municipale au Obecný dům, située place de la République, a également ouvert ses locaux publics. Un concert solennel donné par la Philharmonie tchèque devait se dérouler vendredi soir dans sa salle Smetana. Le ministre tchèque de la Défense, Karel Kühnle, a eu des conversations à Washington avec son homologue américain, Donald Rumsfeld. Ils ont parlé surtout d'un éventuel envoi l'année prochaine d'un groupe de 120 soldats tchèques en Afghanistan. Une cinquantaine de soldats tchèques opèrent déjà en Afghanistan dans le cadre d'une mission de l'OTAN. Côté météo, nous profitons toujours d'un très beau temps ensoleillé. Ce vendredi, les températures ont grimpé en moyenne jusqu'à 19 degrés. Pendant tout le week-end prolongé, ce sera le même scénario. Un grand soleil, les températures très douces pour la saison, de 15 à 19 degrés. Samedi, nous fêterons les Sylviers. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Segertová. Je passe la parole à Anna Kubišta qui a préparé la suite de notre programme.
Yeah. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs des émissions en langue française de Radio Prague. Au nom de toute la rédaction, je vous invite à l'écoute d'une émission exceptionnelle le 28 octobre, à l'occasion de la fête nationale de la République tchèque, que je suis ravie de pouvoir partager avec vous. Cette année, plutôt que de vous raconter toute l'histoire de la création de la Tchécoslovaquie, je vous propose de prendre des chemins historiques détournés et de vous plonger directement dans le destin d'un Tchèque pour qui la fin de la Première Guerre mondiale et surtout l'existence d'un nouvel État issu de la chute de l'Empire austro-hongrois ont eu des répercussions directes et quasi immédiates sur sa vie. Avant de vous faire part de l'histoire de Rostislav Bartocha, francophile et francophone qui passa une bonne partie de l'année 1920 en France grâce à une bourse d'études, rappelons quand même brièvement pourquoi et comment le 28 octobre est devenu la fête nationale des Tchèques. Dès le début de la Grande Guerre, le futur président tchécoslovaque, penseur et défenseur de l'indépendance du pays Tomáš Garrigue Masaryk, s'est exilé en France, y a créé un organe de résistance anti-autrichien et s'est efforcé, secondé par Édouard Beneš et d'autres compagnons, de promouvoir auprès des grandes puissances alliées qu'étaient la France, l'Angleterre ou les États-Unis, l'idée d'un État tchécoslovaque. C'est la France qui, en premier, reconnaît le premier gouvernement tchécoslovaque créé à Paris le 14 octobre 1918. Et avant même que l'armistice scellant la fin de la guerre ne soit signé, l'Empire austro-hongrois est déjà fissuré de toutes parts. Le 28 octobre, l'État tchécoslovaque naît officiellement après près de 3 siècles de gouvernance impériale. Rostislav Bartocha est né en 1896 et décédé en 1978. Professeur de français et de latin dans la charmante ville baroque et universitaire d'Olomouc en Moravie, il écrit ses mémoires au début des années 1960, une autobiographie détaillée qu'il intitule « Rencontre avec la vie ». Sur la somme de près de 2000 pages manuscrites se trouve le récit détaillé de ses souvenirs concernant son séjour en France entre avril 1920 et mars 1921, en tant que boursier au sein de 2 universités françaises, celle de Strasbourg et celle de Paris. En effet, selon Bartocha, la France avait créé une bourse d'une valeur de 5000 francs de l'époque pour 25 étudiants tchécoslovaques, et ce pour une durée de 2 semestres. Le texte de Rostislav Bartocha est riche en détails personnels et historiques. Il s'inscrit pleinement dans le contexte de l'après-guerre douloureux, mais qui est aussi un temps de renouveau, notamment pour la toute jeune Tchécoslovaquie née sur les ruines de l'Empire austro-hongrois. Outre une francophilie de toute évidence préexistante au conflit mondial et à son séjour de boursier, Bartocha, en tant que Tchèque, imprégné par les idéaux de l'autodétermination des peuples slaves avant-guerre et ayant grandi au moment du paroxysme du réveil des nationalités, est reconnaissant vers la France de sa participation à la création de l'État tchécoslovaque et de son indépendance récemment acquise. Bartocha rappelle le contexte de l'époque et l'orientation naturelle de Tomáš Masaryk, père de la nation tchécoslovaque, vis-à-vis des puissances occidentales. Rien de plus naturel à l'époque, en effet. La Tchécoslovaquie s'est toujours orientée à l'ouest, au niveau des idées politiques, et culturellement elle s'en revendique comme faisant partie intégrante. En outre, il explique qu'à l'est, la révolution d'octobre a eu lieu en Russie et ne correspond à aucune tradition historique du pays, en plus de ne pas en avoir les faveurs. Ces liens culturels mutuels trouvent une illustration concrète par la création de liens scientifiques notamment, comme cette bourse créée pour les étudiants tchécoslovaques. Bartocha fait partie alors des heureux élus. Il se rend à une réunion au ministère de l'Éducation nationale où un des responsables fait un discours sur l'importance des liens avec la France.
Il rappela combien ces liens étaient rares. Et surtout, il nous remit en mémoire le discours de protestation de la Diète du pays en 1871 contre l'annexion de l'Alsace. Il expliqua que c'était la France qui avait porté le plus lourd fardeau du conflit mondial, pays où avait été créée la compagnie Nasdar, soit la toute première unité de l'armée tchèque. Il expliqua l'importance culturelle de la France pour le monde dans son ensemble et nous félicita, nous désignant comme les premières hirondelles du printemps de la solidarité franco-tchécoslovaque. Bien sûr, il ajouta immédiatement que nous étions également les premières souris de laboratoire et qu'en tant que telles, nous devions nous attendre à d'éventuelles difficultés dans la mesure où il n'y avait aucun précédent où des étudiants auraient accompli un tel séjour en France.
En dépit de nombreuses tracasseries administratives qui ralentissent leur départ, la caravane des étudiants tchécoslovaques finit par se mettre en route à la fin du mois d'avril 1920, et après de multiples arrêts dans une Allemagne en proie à une agitation politique intense du fait de troubles communistes, écrit Bartocha, ils finissent au bout de 3 jours de train par arriver à Strasbourg, où 3 d'entre eux décident de rester, tandis que les autres continuent sur la capitale française.
Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants accordéons, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. Tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons. Ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille et c'est si bon. Des Delacroix, bébères d'Anvers, ça fait des mois qui sont ouverts. Alors ces dames seront une raison, elles seront bigames et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent. T'as pas d'amis dans la police, dans ton corps.
L'ensemble des mémoires de Bartocha est rédigé de manière claire et lisible, dans une langue cultivée et recherchée. Ce ton et cette exigence envers le langage utilisé, qu'il s'agisse du niveau grammatical, syntaxique ou du contenu, sont évidemment ceux d'un professeur, mais aussi d'un homme né à la fin du XIXe siècle. Sa formation intellectuelle et universitaire, malgré les années de guerre qui l'ont happé au beau milieu de ses premières années d'étudiant, est une formation pétrie par les humanités, mais par un style qui aujourd'hui peut nous paraître un peu désuet. Ainsi, ses descriptions sont parfois un peu grandiloquentes, mais elles restent intéressantes sur le fond, sur ce qu'elles révèlent de la France de l'époque, vue par les yeux d'un Tchèque. Bartocha note par exemple les différences avec leur héritage austro-hongrois dans les manifestations de la vie quotidienne ou dans les rues.
Chez nous, et surtout en Allemagne, tout était corseté par une sorte de gravité semi-administrative pesante, par des obligations accablantes et des manières empreintes de dignité qui faisaient tout pour que rien ni personne ne se réjouisse. Là-bas, sur le sol de l'ancienne Gaule, le moindre chef de manœuvre accomplissait son travail avec une affable légèreté, parfois presque avec nonchalance, mais avec tant d'esprit d'improvisation dans ses idées, toutes empreintes de joie et de gaieté, comme si nous avions émergé des brumes nordiques pour pénétrer dans les clairs horizons du soleil méditerranéen. Derrière leur volant, les chauffeurs ne râlaient pas contre le passant. Ils ne klaxonnaient pas furieusement et prématurément. Au contraire, ils freinaient avec le sourire ou bien vous évitaient gracieusement.
De toute évidence, la caractéristique si souvent jugée typique du français râleur ne semble pas l'avoir effleurée. Peut-être est-ce aussi le fait qu'il ait séjourné en Alsace. Une description d'autant plus révélatrice que cette région avait passé plus de 40 ans sous domination allemande avant de revenir à la France. Il évoque d'ailleurs cette situation d'entre deux.
Un jour, lors d'une réunion étudiante au cercle Maréchal Turenne, c'est un Alsacien qui parle à lui-même des relations des Alsaciens avec la France, racontant qu'en dépit de toute la haine éprouvée envers les Allemands, des liens s'étaient pourtant créés. C'est parce que les Français ne comprenaient pas ces relations qu'on en arrivait à accuser les Alsaciens de germanophilie et à des controverses. Bien entendu, la propagande allemande en tirait profit. Dans l'ensemble, on parvint à cette conclusion que ces relations ressemblaient sans doute à celles que nous entretenions avec les Slovaques. Nous fûmes plutôt surpris de voir que les Alsaciens étaient parvenus à cette analogie à partir de leurs propres renseignements.
Installé chez une logeuse de toute évidence sympathique, Bartocha rentre très vite dans les cercles mondains de la société locale grâce à son entremise et grâce aux salons et soirées qu'elle organise. Elle les emmène par exemple, lui et ses camarades, dans ses cercles d'amis.
Au début, nous étions des personnes exotiques grâce auxquelles elle pouvait se mettre en valeur. Mais en même temps, c'est ainsi qu'elle éveilla en nous notre sympathie pour la France. Et elle nous donna la possibilité de faire part de ce que nous savions sur notre patrie, sans compter que ces soirées étaient une bonne école pour notre français.
Preuve que déjà à l'époque, ceux qui avaient une idée de ce qu'était la Bohème ou la toute nouvelle Tchécoslovaquie étaient réduits à la portion congrue. C'est que Bartocha doit faire de la propagande culturelle autour de lui, même aux bohémistes, sur Prague, son pays, en leur montrant des photos, en leur faisant des récits. De nombreuses personnes lui demandent si on y parle allemand ou si le tchèque est une langue comme le hongrois. À ce sujet, Rostislav Bartocha fait mention d'une anecdote et relate une conversation qu'il eut un jour à la poste sur la situation géographique de la Tchécoslovaquie. Et la personne à la poste de demander naïvement « Est-ce en Amérique ?»«
Oh non, c'est en Europe. C'est à peu près aussi loin que d'ici à Paris. »«
Alors, en Pologne? En Autriche? Depuis quand existe cette république ?»«
Savez-vous où sont la Bohême, la Moravie, la Slovaquie ?»«
Oui. »«
Eh bien ça, c'est la République tchécoslovaque. »
Rien de nouveau sous le soleil donc, quand on sait qu'aujourd'hui, certains confondent Tchèque et Tchétchène, et que lorsque la Tchécoslovaquie existait encore, d'aucuns hésitaient à penser qu'une guerre sanglante y faisait rage au début des années 1990. Mais revenons à Rostislav Bartocha et à ce début des années 20, où même 2 ans après la fin du premier conflit mondial, les traces de la barbarie des armes sont encore visibles. Dans les Vosges, où le jeune étudiant tchèque se rend en excursion, il est confronté à un paysage encore empreint de désolation. Petites villes en ruines, villages brûlés et vidés de leurs habitants, bois explosés, nulle trace de vie ni de verdure, c'est ainsi que lui apparaissent les montagnes. De même que la ville de Reims, une étape sur sa route vers Paris, une mer de ruines, au milieu de laquelle la cathédrale médiévale avait essuyé les tirs d'artillerie de l'armée allemande.
Dieu que la vie est cruelle, aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est-il ou c'est moi, Menon, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon.
Paris est la deuxième étape du séjour de boursier de Rostislav Bartocha. Un Paris aux larges avenues chaotiques, remplies de passants et de myriades de voitures, une capitale mythique où le jeune Tchèque est conquis par l'architecture des bâtiments qu'il trouve plus aérienne et variée que la pesanteur des bâtisses germaniques. Il compare notamment Paris et Prague.
À cause des banlieues, on a l'impression que Paris s'étale à l'infini. Le panorama pragois depuis le château de Hradčany est évidemment plus poétique, même s'il reste beaucoup plus modeste en surface. Et à Paris, on ne trouve pas non plus d'équivalent à l'impressionnante vue depuis Hradčany, car il n'y a guère de tels contrastes dans les hauteurs. Il manque donc la gradation architectonique telle qu'en offrent les panoramas pragois. Mais comme on s'habitue vite à un milieu grandiose, nous nous disions, sans la moindre intention d'exagérer les choses, que Prague n'était pas beaucoup plus petite que Paris, que l'animation de ses rues ne cède rien à celle de Paris. Par la suite, après notre retour, notre collègue Benjamin s'exprima à peu près en ces termes. J'avais l'impression que Prague était devenue un village. Autrefois, je regardais de tous côtés et faisais attention à ne pas me faire renverser. Mais il n'y a quasiment rien dans les rues. Et c'était un Pragois de naissance.
Pourtant, même si la capitale française le séduit, c'est de toute évidence son séjour à Strasbourg qui lui a été le plus profitable, tant pour la langue que pour les personnes rencontrées et appréciées, ou que du point de vue des cours qu'il suit à l'université, par exemple. Un jour, peu après son arrivée dans la capitale française, il croise par hasard des collègues boursiers tchécoslovaques.
C'était une bonne surprise et un bureau de renseignement tout trouvé. Mes collègues n'étaient pas particulièrement satisfaits à Paris, surtout parce qu'ils ne s'étaient pas du tout intégrés à la société française et n'avaient pas beaucoup appris de français. Mais comme ils le concédèrent volontiers, du fait qu'ils restaient toujours ensemble et parlaient exclusivement tchèque. Je m'en rendis compte par moi-même.
Bartocha lui-même déplore l'absence de contact avec les étudiants français.
Notre colonie estudiantine se rencontrait à l'Institut Slave, au 9 de la rue Michelet, si je ne m'abuse, à quelques pas des jardins du Luxembourg, juste à côté de la maison d'Ernest Denis, qui participa même à certaines de nos soirées. Nous avions une pièce commune à l'Institut Slave, où se trouvait un bon piano, sur lequel je jouais à de nombreuses reprises, à chaque fois pour quelques auditeurs reconnaissants. Quelques familles françaises venaient également, mais rien de comparable à ce que cela avait été à Strasbourg.
Car de même qu'à Strasbourg, Rostislav Bartocha se fait fort d'illustrer la réputation bien faite des Tchèques, même auprès des Français, comme une nation de musiciens, et interprète à l'envi des œuvres de Smetana ou de Fibich, par exemple, comme les petites pièces pour piano, état d'âme, impression, souvenir, dont je vous propose d'écouter un extrait. Rostislav Bartocha s'épanche à de nombreuses reprises au cours de son récit en pointant du doigt les folies d'un monde qui, après avoir connu les ravages de la Grande Guerre, ne put empêcher d'autres vies perdues, d'autres destins brisés. Si son récit comporte parfois des passages assez conventionnels ou au ton un peu trop sentencieux, l'ensemble des souvenirs de Rostislav Bartocha sur ses 8 mois de vie à la française est néanmoins un regard unique sur l'après-guerre de la France et de la nouvelle Tchécoslovaquie. Un destin d'un futur professeur de français qui, marqué par ses premières décennies du XXe siècle, subira également les conséquences des remous politiques et changements des décennies suivantes. Car difficile de ne pas partager son amertume lorsque l'on sait que ce voyage en France, dans le pays dont il avait appris à aimer la langue et la culture, sera le seul et unique qu'il fera, les conditions économiques et politiques des années suivantes tirant un trait définitif sur toute aspiration à s'y rendre à nouveau. C'est la fin de cette émission un peu particulière à l'occasion de la fête nationale tchèque qui vous a été présentée par Anna Kubišta avec l'aide d'Alain Slivinski pour la lecture des textes. Je tiens à remercier chaleureusement les archives régionales d'État de la ville d'Olomouc et son directeur, M. Bohdan Kaniak, qui m'ont permis de consulter les mémoires de Rostislav Bartocha et d'en utiliser des passages afin de les traduire en français. Merci à Yarka Fikarlova et Petr Pokorny pour la réalisation et la mise en onde. Au nom de toute la rédaction de Radio Prague, bon week-end à toutes et à tous.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners